Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le Club des Idées à 19h19, on va donc parler de notre assiette et de notre alimentation. La viande est-elle vraiment mauvaise pour la planète? C'est l'un des leviers de la fameuse loi climat, nous encourager à se passer de viande quelques jours par semaine, dans la cantine notamment, pour réduire de 20%, c'est l'objectif, la consommation en France. Alors les éleveurs sont furieux, en tout cas pour certains, mais sur le fond, est-il vrai que l'élevage pollue plus que les cultures par exemple de fruits et légumes? Vérité absolue ou idéologie? On en parle ce soir avec nos invités, notamment Éric Birloez. Bonsoir, vous êtes ingénieur agronome et sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Merci de votre présence. On en parle également avec Pierre-Marie Aubert. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur et coordinateur de l'initiative Agriculture européenne à l'IDRI. C'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et on en parle avec Mathieu Ballu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste scientifique ou au HuffPost, co-animateur du podcast, je vais y arriver, L'envers du décor, sur les questions environnementales. Et vous connaissez évidemment bien la question. Alors, première question, je me tourne vers vous, Pierre-Marie Aubert. Quelle est la réalité de l'impact de la consommation de viande sur le climat? J'ai vu plein de chiffres en préparant cette émission. Et notamment celui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, qui nous dit que la production de viande au niveau mondial est responsable de près de 14,5% des émissions de carbone. Est-ce que c'est vrai?
Alors, on ne va pas remettre en doute dans ce studio les chiffres de la FAO, ce serait quand même assez
on prétentieux. On peut les nuancer.
Mais en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, si on prend le cas de la France ou de l'Europe, c'est que la production animale consomme à peu près 60, presque 70% selon les cultures, des productions végétales qu'on utilise. Et en fait, ce chiffre-là, à lui seul, explique une grande partie des problèmes que ça pose. Parce qu'en utilisant autant de la production végétale, c'est-à-dire en gros, quand on a un champ de blé, l'essentiel, il part pour les animaux, pas pour les bonhommes et les bonnes dames. Donc ça explique une grande partie des impacts environnementaux, pas que climatiques d'ailleurs. Pourquoi? Parce que du coup, ça crée une pression extrêmement importante pour produire toujours plus sur une parcelle de blé. Et pour produire toujours plus, on a besoin de quoi? On a besoin de fertilisants de synthèse et on a besoin de pesticides. Donc ça, c'est un premier impact biodiversité et climat, puisque quand on met des fertilisants, ça émet des gaz à effet de serre. Et ensuite, cet élevage, il est souvent très concentré. Et donc, il émet des gaz à effet de serre par ses déjections et pour les ruminants, par ses rots et ses pets.
Bien. C'est important de le dire parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a la consommation d'eau, il y a la production de céréales, vous en avez parlé, les rejets de CO2, les rejets de méthane. Alors je serai un peu plus poli et précis que vous. Ce que l'on appelle les rots de vache du fait de la fermentation bactérienne de l'herbe et des fourrages.
Absolument, on parle de fermentation entérique.
Bien. Pour avoir les chiffres en tête, Éric Birloez, l'élevage mondial, c'est un cheptel qui compte quoi? À peu près 1 milliard 200 millions de têtes, c'est ça?
Oui, il me semble que c'est ça le chiffre que l'on donne. Alors c'est vrai ce que l'on a dit, c'est-à-dire que 70% des sols au niveau mondial sont utilisés par et pour les animaux. Donc, mais il faut quand même pas oublier que sur ces 70%, la moitié, 37%, toujours au niveau mondial, eh bien, ce sont des sols qui sont couverts d'herbe. Ils sont sur des prairies et dans des zones sur lesquelles on ferait pas forcément pousser autre chose. Et en plus, l'herbe, ça je ne vous l'apprends pas, n'est pas consommable par l'homme. Donc il faut quand même bien prendre en compte qu'il y a ce qui est une concurrence en matière de production végétale avec ce que pourraient consommer les humains et ce que, de toute façon, les humains ne pourraient pas consommer. Donc c'est juste pour relativiser un peu ce qui a été dit tout à l'heure.
J'essaye de ramener ça à nous, Français, par individu. Peut-être vous avez les chiffres, Mathieu Ballu. Moi, j'ai vu que, par exemple, pour la consommation d'eau, on estime, alors, les estimations sont larges, entre 50 litres d'eau par kilo de viande ou jusqu'à quelques centaines de litres. C'est selon si on prend les chiffres, évidemment, qui sont donnés par les écolos ou par les éleveurs. Idem pour la production de céréales, on en parle en ce moment, là, qui sert à nourrir les élevages. Selon la FAO, là aussi, chaque kilo de bœuf nécessite entre 10 et 25 kilos de céréales. C'est à peu près ça, les volumes?
Alors, pour ce qui est des kilos de céréales, on peut effectivement faire ce calcul-là. Par contre, pour l'empreinte en termes d'eau, c'est... Alors, vous êtes plutôt sympa, parce qu'il y a des ONG...
100 000. J'ai vu 100 000.
Voilà,
mais j'ai du mal à y croire. 100 000 litres d'eau retenu, par kilo de viande. Ouais. Alors, là, il faut m'expliquer quand même.
Bon, alors disons que... là, je vais être un peu chauvin. Il y a une ONG qui a pris un chiffre qui a été très, très repris, qui est Water Footprint, qui a pris le chiffre de 15 000 litres d'eau par kilo de bœuf. Et puis bon, ça paraissait quand même beaucoup, et l'INRA a refait le calcul, et en fait, il se trouve que ces 15 000 litres prennent en compte l'eau bue par l'herbe que mange la vache. Or, en fait, ça, c'est un petit peu, comment dire, fallacieux, parce que l'eau, si l'herbe pousse, c'est que l'eau a atteint le sol. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu pas tout à fait juste là-dedans. Et donc, moi, je vais m'en tenir à ce que dit l'INRA. L'INRA dit entre 550 et 700 litres d'eau par kilo de bœuf. Ça reste beaucoup.
C'est colossal à l'image de la planète.
C'est colossal à l'image de la planète. Après, il faut aussi s'imaginer que pour produire un légume, un kilo de légumes, alors je crois que c'est un kilo de tomates, il faut quand même plus d'une centaine de litres d'eau. Hein. Donc on va vite quand même très haut dans l'élevage industriel.
Est-ce qu'on consomme trop de viande en France, Pierre-Marie Aubert ?
Alors,
vous allez me dire trop.
Oui, voilà.
C'est subjectif.
On va tout de suite poser les ordres de grandeur. En fait, on consomme trop de viande à la fois par rapport à nos besoins nutritionnels.
Oui.
Et par rapport aux enjeux environnementaux. Donc, je vais être un tout petit peu plus précis. Par rapport à nos besoins nutritionnels, aujourd'hui, on consomme à peu près 100 grammes, 105 grammes de protéines par jour, en moyenne. C'est très compliqué, parce qu'il y a dont 60-65% de protéines animales. Les besoins nutritionnels, pour couvrir les besoins d'un individu moyen, c'est 50 grammes de protéines totales. Donc, vous imaginez qu'on mange déjà plus de protéines annuelles que ce dont on a besoin au total de protéines pour couvrir nos besoins. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne fait pas de mal à la santé.
Oui.
Mais par contre, vu que d'un point de vue environnemental, produire toutes ces protéines animales et pas que la viande, ça a un certain nombre d'effets négatifs qu'on a évoqués rapidement.
Alors, attendez, on va prendre les choses dans l'ordre. Sur la santé, je voudrais qu'on s'y arrête deux secondes parce que ça, c'est avéré. Hein. C'est ce que nous dit l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Mathieu Ballu, peut-être un mot là-dessus. Chaque portion de 50 grammes de viande transformée, consommée tous les jours, augmente le risque de cancer colorectal, par exemple, de 18% environ. Alors, pardon, c'est un peu précis, mais c'est le cas. On s'est aperçu que manger trop de viande et trop de produits dérivés, la charcuterie notamment, c'était pas bon pour la santé.
Ça, c'est avéré, effectivement, l'OMS l'a dit, notamment pour la viande rouge, qui est particulièrement en cause dans ce constat-là. En fait, ce que dit l'OMS, c'est qu'aujourd'hui, les deux tiers de notre apport en protéines, il est fait par la viande, et ça devrait être à peu près la moitié. Voilà.
Mais c'est quoi la bonne balance ? C'est un steak tous les trois jours, un steak tous les deux jours ? C'est quoi ?
Allez-y. Alors, ça dépend de vraiment ce que vous prenez comme mesure. Ça, c'est très intéressant.
Oui.
Le Lancet, par exemple, en 2019, a fait un rapport qui vise 2050. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, pour qu'on soit stable en 2050, pour qu'on ait cet objectif de 2050, vous savez, le fameux objectif neutralité carbone, il va falloir qu'on change nos habitudes de consommation.
Oui, oui.
Et en gros, il faudrait qu'on soit à 300 grammes de viande par semaine. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est une fois, de temps en temps, manger de la viande. Une fois tous les temps de jour. Ensuite, le gouvernement, lui... disons que c'est 2 à 3 consommations par semaine.
Oui. Voilà.
Le gouvernement, lui, il y a un peu plus. Il dit que c'est 500 grammes hors volaille. Donc là, vous pouvez vous imaginer que c'est peut-être un peu moins d'une fois par jour.
Oui.
Aujourd'hui, on est à 820 grammes. Donc là, on mange de la viande tous les jours.
Oui, voilà. Mais on va voir, juste après la pause, on va marquer une première pause, peut-être un mot d'Éric Birloez juste avant. On va voir que la tendance est en train de baisser dans la consommation de viande. On est en train de passer un point de bascule dans la consommation de viande. Éric Birloez, d'abord sur cette consommation française, un mot de réaction et on marque une pause.
Oui, je crois que la question, de toute manière, c'est pas de savoir s'il faut ou pas arrêter la viande, hein, évidemment. Ce qui est dangereux, c'est comme toujours l'excès. Et c'est vrai qu'on vient de le dire, pour la viande rouge, enfin disons la viande de boucherie, hors volaille et hors charcuterie, l'excès, c'est 500 grammes par semaine. Et là, je vais juste rappeler que la moyenne française en 2016, et c'est beaucoup moins aujourd'hui, probablement, ça n'était pas 500 grammes, mais 320 grammes, et que 80% des Français consommer largement moins des 500 grammes. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas la réduire,
oui.
Et c'est évidemment ça la tendance, mais la viande n'est pas en soi, si elle est évidemment de bonne qualité, un aliment qui est un poison pour la santé. Nous sommes des omnivores, et même si on peut vivre très bien sans viande, en étant végétarien, il n'y a aucune raison de dire que la viande serait un poison, dès lors qu'on est dans la modération et pas dans l'excès.
Bien, vous me rassurez, parce que j'aime bien la viande, moi. Avec modération et de bonne qualité. 19h28, on marque une première pause, on se retrouve dans quelques secondes. On a encore plein de questions à vous poser. Quelle viande choisir? Comment la consommer? Les élevages intensifs aussi qui posent question, notamment du côté des États-Unis. On en parlera avec nos invités. À tout de suite. 19h30, passé de 1 minute, le Club des Idées suite. On continue de parler de notre alimentation et notamment de la viande. Est-elle vraiment mauvaise pour la planète? On en parle avec nos invités. Je voudrais vous faire partager, avant de vous faire réagir les uns et les autres, la déclaration de Pascal Canfin. C'était il y a un peu plus de 2 ans, lorsqu'il était à la tête du WWF France. On l'écoute.
à la cause de cette dégradation de la nature, c'est notre alimentation. Lorsque nous mangeons de la viande qui se nourrit de soja, que ce soja a lui-même poussé à la place d'arbres de l'Amazonie qu'on a rasé, ça revient à ce que quelque part dans notre assiette, il y a un bout de déforestation de l'Amazonie ou des forêts d'Asie du Sud-Est.
Bon, extrapolation évidemment, mais ça pose une question importante, Pierre-Marie Aubert. Vous êtes chercheur, coordinateur de l'initiative Agriculture européenne à l'IDRI. D'où vient la viande qu'on consomme aujourd'hui en France ?
Alors, la viande qu'on consomme en France, qu'on trouve dans les supermarchés, elle est encore en grande majorité d'origine française. Mais il faut bien voir que...
Et elle devrait le rester, puisqu'il y a quand même un sujet sur l'autonomie alimentaire. C'est quand même la volonté des pouvoirs publics.
Oui, c'est la volonté des pouvoirs publics et des agriculteurs, évidemment. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que, en fait, depuis une quinzaine d'années, 20 ans maintenant, on a une chute de compétitivité extrêmement forte des filières, notamment de volaille et de porc. Et donc, l'essentiel de la restauration à domicile se fait aujourd'hui pour toutes les viandes de porc et volaille sur la base d'importation, quasiment 50%.
À domicile ?
Non, la restauration hors domicile.
Hors domicile.
Tout ce que vous mangez en dehors de chez vous.
Je rebondis parce que c'est un chiffre que je cite tout le temps et qui est, je trouve, hallucinant. Le poulet, par exemple, 50% sont importés et même 70% dans la restauration collective et les plats préparés. Des poulets qui viennent majoritairement d'Europe de l'Est, de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, d'Ukraine et aussi, évidemment, du Brésil. Ça pose question, ça, quand même.
Il faut savoir que dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, la France était le premier exportateur mondial de poulet. On a misé essentiellement à ce moment-là sur des exportations de poulet de qualité moyenne, dont une certaine partie même n'était même pas destinée, n'aurait pas pu être vendue sur le marché français.
Oui.
Et on n'a pas su peut-être, à un moment donné, prendre un virage de compétitivité prix sur du poulet de milieu de gamme qui aurait pu convenir au panier moyen des Français et des Françaises. Et donc aujourd'hui, on paye aussi le prix de ça, et on paye aussi un différentiel, et c'est question européenne, dans les modes de production entre les Danois, entre les Allemands, entre les Polonais. Et ça explique en partie ce qui se passe.
Je dis ça parce que ça revient, Mathieu Ballu, vous êtes journaliste scientifique au HuffPost, ça revient à la question de départ de cette discussion et de ce débat. Est-ce que ça pollue l'élevage intensif ? Est-ce que ça pollue la production de viande au niveau mondial, évidemment, pas au niveau local et au niveau français ? Quand on voit qu'on importe 70% des poulets consommés hors domicile, ça pose une question d'environnement quand même.
Ça pose une question d'environnement dans la mesure où ça pose une question de consommation. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est intéressant, la tranche d'âge qui mange le plus de viande, en fait c'est assez inattendu, mais sont les 18-24 ans. Et pourquoi sont les 18-24 ans ? Non pas parce qu'ils achètent de la viande de première qualité.
C'est pas intuitif, on pense que les 18-24 ans sont tous végétariens, véganes, et en fait c'est l'inverse.
Mais c'est pour d'assez mauvaises raisons, c'est parce qu'ils mangent des sandwichs. Et donc dans les sandwichs, on va retrouver le poulet dont on parlait tout à l'heure. Ça c'est la viande qu'on importe, et ça c'est pas la viande qui est...
Les fast-food aussi.
Évidemment. Ça joue aussi, donc c'est évidemment pas la viande qui est la meilleure pour l'environnement, pas la meilleure pour, à mon avis, la santé non plus. Donc tout ça forme un tout qui est un problème essentiellement de consommation et d'habitude de consommation.
Le poids de l'élevage intensif, Éric Birloez, vous êtes ingénieur agronome, il est important aussi dans cet impact environnemental ?
Effectivement, quand on parle d'élevage, il faut savoir de quoi on parle. Il y a énormément de types d'élevage différents entre l'élevage allaitant, c'est-à-dire l'élevage de vaches à viande dans le Massif central, et puis ce qu'on appelle les feedlots américains, qui sont, alors là, il n'y a pas des centaines ni des milliers, mais des dizaines de milliers d'animaux. Donc on a des choses qui n'ont absolument...
Des dizaines
absolument,
de milliers d'animaux
Des élevages
avec des dizaines de milliers d'animaux.
Oui, mais là, je n'utiliserai pas le terme élevage, parce que justement, je crois que le problème, il est là. Le problème, c'est qu'il nous faudrait revenir à l'élevage et non pas à ce qu'est devenu l'élevage dans un certain nombre de cas, qui est en fait une production industrielle de protéines animales à bas coût, au coût le plus bas possible. Et je crois que le problème, fondamentalement, indépendamment évidemment des impacts sur l'environnement qui sont bien réels, mais le problème c'est que on a considéré que l'alimentation, la nourriture était un bien standard et qu'il fallait toujours être de plus en plus compétitif, produire le moins cher possible, ce qui est évidemment une catastrophe. Ça enlève toute valeur à l'alimentation, ça ne permet pas de rémunérer dignement les agriculteurs, et ça je peux vous dire qu'aujourd'hui les consommateurs, ils sont très sensibles à ces questions-là et notamment à la reconnaissance du travail des éleveurs, à leur juste rémunération. Donc, manger moins de viande, certainement, c'est ce que font les Français depuis déjà 40 ans pour la viande rouge. Mais aujourd'hui, l'attente, c'est de manger mieux. c'est-à-dire avec des attentes de respect de l'environnement, du bien-être animal et donc du bien-être de l'éleveur.
Bien, c'est intéressant ce que vous dites, Éric Birloez, la chute de la consommation de viande en France. On est revenu au pic qu'on avait connu à la fin des années 70, avec aujourd'hui en moyenne 86,3 kilos de viande consommée par habitant. Donc c'est beaucoup moins qu'auparavant. Entre parenthèses, c'est beaucoup moins que les Américains. J'ai vu qu'ils consommaient 100 kilos par Américain, c'est ça, à peu près le...
Oui, oui,
100
voilà.
kilos par Américain,
oui,
c'est énorme. C'est...
En fait, la diminution de la consommation de viande rouge est compensée en fait par, pendant jusqu'au début des années 2000, par une augmentation de la viande de volaille qui stagne aujourd'hui. Mais en fait, depuis les années 90, on est plutôt sur une stabilisation qu'une décrue radicale.
J'avais vu que le pic mondial avait été atteint en 2019 après des décennies de hausse et qu'on était à un point de bascule là, en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose de sociologiquement intéressant à relever. Le paradoxe, c'est que plus le niveau de vie augmente dans les pays, moins on consomme de viande. Alors qu'on est arrivé à une hausse de la consommation liée aussi à la hausse du pouvoir d'achat. Donc on est vraiment sur un point de bascule en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
C'est la théorie des transitions nutritionnelles, effectivement. Moi, je ne parierais pas sur un point de bascule radical tout de suite en l'absence de mesures et de questions. Je pense qu'il y a juste un point que je voudrais refaire sur cette question de l'alimentation comme produit commodifié qu'évoquait Éric Birloez tout à l'heure. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui sur le fait que la situation des filières viande française s'explique en partie par le fait qu'on est dans une situation où on peut importer des choses qu'on s'interdit de produire chez nous. Ça, c'est un point fondamental. Il ne faudrait pas néanmoins croire que si on arrêtait tout importer, on pourrait ne pas réduire la production de viande. Je pense qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut être plus exigeant sur ce qu'on fait venir et ce qu'on propose aux Français dans les étalages.
Oui.
Et en même temps, par rapport aux ambitions climatiques qu'on a, ce qu'on regarde quand on regarde tous les travaux de la littérature académique, c'est qu'on va avoir besoin de réduire et de faire moins et mieux. Ou on pourrait même dire, comme dirait Éric Birloez tout à l'heure, moins donc mieux.
Oui.
C'est parce qu'on fera moins qu'on pourra faire mieux.
Et je voudrais donner la parole à Christine Valentin qui est avec nous par téléphone. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes éleveuse bovine et ovine d'ailleurs en agriculture biologique du côté de la Lozère. Vous êtes aussi la première vice-présidente des chambres d'agriculture. Comment vous réagissez d'abord à ce qui a été dit et c'est vrai, comment lutter aussi contre cette concurrence d'une certaine manière déloyale avec ces produits importés, industrialisés comme le disaient les invités ?
En donnant une meilleure image de ce que nous faisons et en sachant le mieux le communiquer, tout simplement pour rassurer le consommateur sur ce qui est produit à côté de chez lui ou en France, et l'inciter encore plus à se rapprocher des producteurs français et surtout des produits français, et de savoir, quand il fait ses courses, mettre le bon produit dans son caddie.
Oui. Vous êtes d'accord avec cette idée de plus en plus importante chez le consommateur français qui est de dire, allez, on consomme un peu moins de viande, mais par contre, on consomme de la viande de meilleure qualité et donc de la viande locale made in France.
Tout à fait. Il va peut-être en consommer moins souvent, mais quand il la consommera, elle sera de meilleure qualité et il n'aura pas de déchets, de gaspillage. Et ça, c'est très important et c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant. On a des très bons morceaux, on a des morceaux à cuisiner d'une belle façon en France et qui permettent de mieux les valoriser et du coup, peut-être d'en manger moins souvent, mais de se régaler quand on en mange.
Ça veut dire que globalement, le marché français a vocation, selon vous, madame, à monter en gamme ?
Alors, je pense qu'il doit mieux répondre, en tout cas, aux attentes des consommateurs. Ce qui ne veut pas dire forcément monter en gamme par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, mais plutôt orienter différemment peut-être ses produits en fonction de la population à laquelle il s'adresse à des moments donnés. On sait très bien qu'on a des collectivités, des écoles, des cantines qui ont besoin d'une certaine marchandise. Par contre, on ne va pas trouver la même dans les grandes surfaces, dans les boucheries. Donc, être peut-être plus vigilant sur la répartition justement des morceaux et de façon à mieux les valoriser. Une éducation aussi des jeunes, mais une éducation aussi des cuisinières, des intendants dans les écoles, pour être plus dans les écoles ou dans toutes les collectivités, pour être mieux adapter en tout cas leurs commandes et leur marché aux bouches qu'ils ont à nourrir.
L'étiquetage des produits aussi, l'étiquetage de l'origine des viandes, ça c'est très important, on en parlera dans un instant. Merci madame pour ce témoignage, Christine Valentin du côté de la Lozère, merci à vous. On marque une pause, on se retrouve avec nos invités dans un instant, à tout de suite. On continue le Club des idées à parler de notre assiette, notre alimentation, avec cette question centrale, la viande est-elle vraiment mauvaise pour la planète? Comme on l'entend souvent, on est toujours avec nos invités ici dans le studio d'Europe Soir. Alors je parlais tout à l'heure de la qualité de la viande, la qualité d'ailleurs plutôt que la quantité. On en parlait avec cette éleveuse, Christine Valentin, qui est du côté de la Lozère. La montée en gamme, c'est un élément important, Pierre-Marie Aubert, pour l'avenir de l'agriculture française et des éleveurs?
Oui, on disait ça tout à l'heure, hein. On doit faire moins et donc on pourra faire mieux,
oui.
sur tous les plans. Et je pense que je reviendrai sur ce que disait Christine Valentin tout à l'heure.
Je dis ça simplement parce que j'ai vu que la filière bovine française veut monter par exemple à 40% de labellisation des viandes d'ici à 2025. Donc c'est un élément important, il y a vraiment cette volonté d'afficher non seulement une viande française, mais une viande de meilleure qualité.
Oui, il faut soutenir la filière bovine et de viande rouge française, hein, qui fait des énormes efforts. Il faut aussi l'accompagner dans le fait d'être plus ambitieux encore sur son cahier des charges, vers ce moins, donc mieux. Je pense que c'est fondamental. Et juste un tout petit point, hein, sur la viande de ruminant. Oui. On oppose souvent la viande blanche, la viande rouge. La viande rouge, ce serait plus problématique que la viande blanche. Je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier...
Sur la question de l'environnement.
Sur la question de l'environnement. On nous dit souvent, les ruminants, finalement, c'est très très grave pour le climat parce qu'ils émettent du méthane, etc. Je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier le fait, Éric Birloise l'a dit tout à l'heure, hein, les ruminants, ils ont cette capacité de valoriser des espaces et des produits que les humains ne consomment pas. Et ces espaces qu'ils valorisent, hein, que sont les prairies et les espaces, on va dire, de parcours, eh bien, en fait, ils ont des qualités environnementales extrêmement fortes. C'est quasiment un quart de la biodiversité que l'Europe s'est engagée à conserver au titre de ses engagements internationaux, qui est associée à ces fameuses prairies.
Oui.
Donc, il faut maintenir cet élevage ruminant. Il faut l'extensifier, c'est-à-dire que donner à manger du soja et du maïs à des vaches, ce n'est pas une solution, mais permettre à des vaches de revenir en Île-de-France pour remettre des prairies pour des enjeux de biodiversité, ça, c'est un truc qui est vraiment fondamental.
Mathieu Ballu, je vois acquiescer ce qui vient d'être dit.
Non, c'était hyper clair et intéressant. C'était juste pour dire aussi qu'avec cet élevage un peu différencié, qui va un peu monter en gamme, on va s'obliger à avoir une réflexion un peu différente sur ce que c'est vraiment que la viande. C'est-à-dire que si c'est plus cher, la viande, tout le monde ne pourra pas en manger, ou plutôt, on va être obligé de la manger différemment. Donc je sais que c'est une question qu'on s'est pas mal posée au œuf sur comment faire une assiette qui soit abordable, qui soit respectueuse de l'environnement et qui contienne aussi de la viande, parce que si elle n'en contient pas du tout, bon, c'est une autre discussion, mais ça complique un peu les choses parce qu'il faut des additifs, etc.
Vous avez trouvé la réponse ou pas?
Eh bien, en fait, nous, pas vraiment, mais l'INRA, oui, notamment via les travaux de Nicole Darmon, qui a pas mal bossé sur comment baisser l'impact carbone de l'assiette. Et c'est assez marrant comme elle le formule. Elle dit, on peut carrément couper de 70% l'impact carbone de notre assiette. Mais, nous dit-elle, l'assiette, elle devient un peu bizarre.
C'est-à-dire ?
Et ce qu'elle sous-entend par bizarre, en fait, c'est qu'on va y mettre des abats dans l'assiette. C'est qu'en gros, on va arrêter de prendre des entrecôtes et qu'on va se mettre à faire des riz de veau, quoi.
Ouais.
C'est pas si bizarre que
ça.
C'est
bon, les riz de veau aussi.
C'est excellent, les riz de veau. Et c'est pas si bizarre que ça, c'est juste qu'on va peut-être se mettre à refaire des choses qu'on fait plus trop, c'est-à-dire, je crois que madame en parlait tout à l'heure, mais cuisiner la viande de manière un peu différente aussi.
C'est le cas, je vous coupe, mais c'est le cas pour tous les produits. Les légumes, par exemple, on retrouve les légumes d'antan, des légumes comme le pané qui avait un peu disparu des étals de marché. Donc vous dites, c'est pareil, il faut valoriser des morceaux de viande qu'on a moins l'habitude de... Parce que ça participe à l'élevage intensif d'une certaine manière. Tout le monde veut une entrecôte, donc forcément, il n'y a pas assez d'entrecôte dans un bœuf pour nourrir tout le monde. Donc on utilise plus de bœuf, c'est ça à peu près la réflexion?
C'est exactement ça. Après, les carcasses sont réutilisées. Enfin, l'élevage industriel est quelque chose d'assez magnifique pour la réutilisation des parties non mangées. Donc, on fait confiance pour que ça devienne ensuite d'autres choses. Oui. Mais il vaut mieux utiliser un maximum dans une bête si on veut vraiment avoir une démarche environnementale intelligente pour la viande.
Alors, puisqu'on est dans les solutions, en tout cas dans les pistes de réflexion pour trouver des solutions, Éric Birloise, vous êtes ingénieur agronome. Quel est le bon levier pour essayer de réduire les élevages intensifs et l'empreinte carbone qui va avec?
Je crois qu'il y a des pistes hein, qui existent et qui ont déjà été indiquées tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est très important, en tout cas pour ce que l'on peut faire en France, c'est de maintenir et même d'ailleurs d'augmenter les surfaces en herbe, les surfaces en prairies. Les prairies, c'est des puits de carbone, ça capte du CO2, c'est de la biodiversité, on peut remettre des haies, on peut remettre des arbres. Et encore une fois, l'herbe n'est pas consommable par les humains. On peut également produire davantage de légumineuses. On parlait tout à l'heure d'une autre légumineuse qui est le soja, légumineuse importée d'Amérique, responsable en partie de la déforestation. on a en France, en Europe, la possibilité de cultiver du pois, de la févrole, de la luzerne, du trèfle, etc. Et en plus, comme c'est une légumineuse, ça ne nécessite pas d'apport d'engrais azotés. On peut travailler, la recherche de l'INRA y travaille bien évidemment, sur une alimentation des animaux moins émettrice de gaz à effet de serre, faire de l'alimentation de précision. Donc il y a énormément de pistes et donc un accompagnement par la recherche et accompagnement technique des agriculteurs. Et en même temps, je voulais juste dire que cet accompagnement doit être aussi un accompagnement, je dirais entre guillemets, psychologique des éleveurs, c'est-à-dire en fait qu'ils aient le soutien de la population, non pas qu'on les montre du doigt comme des pollueurs ou comme des gens qui traitent pas bien leurs animaux, ce qui est évidemment absolument faux et insupportable pour les éleveurs qui entendent ça, mais au contraire qu'on ait le soutien de la population et qu'on restaure, et je bouclerai par ça, une véritable culture de l'alimentation, parce que nous avons quand même beaucoup oublié, nous les Français, citadins à 80%, les réalités du monde agricole et du monde de l'élevage et les bénéfices de l'élevage. Il n'y a pas que des inconvénients malgré tout.
Oui, vous avez raison de le rappeler, Éric Birloez. On aime bien, nous, Européens, dans Europe Soir, défendre les agriculteurs et les éleveurs qui évidemment nourrissent les Français et font un boulot absolument admirable, donc pas d'agribashing. D'ailleurs, quand on pose la question sur la faim de la consommation de la viande, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de démagogie dans ce débat, eh ben, ils répondent de cette manière-là, à l'image de Julien Tufry, vice-président de la Chambre d'agriculture de Lozère. Écoutez-le au micro de Pierre Herbulot.
Pourquoi pas arrêter de manger des pâtes et pourquoi pas arrêter de manger des haricots verts? Manger de la viande locale, manger de la viande produite à l'herbe, c'est bien plus positif pour l'environnement, pour nos enfants, pour leur santé, que de manger des galettes de soja produites à je ne sais quel point de la planète.
C'est pas faux, Pierre-Marie Aubert.
Non, c'est pas faux.
Là, on est sur de l'élevage local, donc de l'élevage français, intensif.
Je pense qu'il faut, réfléchir à ça. Éric Birloez l'a dit tout à l'heure, les animaux, ils ont un rôle à jouer. Moi, ce que je voudrais juste dire pour terminer, c'est que si on dit, et on le dit, et la science nous le dit, on a besoin de réduire, les chiffres sont pas consensuels, mais on a besoin de réduire en tout cas la consommation et la production de produits animaux dans le contexte européen à minima et français en particulier, il va falloir une stratégie pour que ça soit accompagné, choisi et pas subi d'un point de vue socio-économique. Et je pense que c'est le point qui fait justement écho à ce que vous disiez, hein, pas d'agribashing, on n'est pas du tout là pour ça. Il y a une question démographique, 50% d'agriculteurs, des éleveurs, ils ont plus de 50 ans aujourd'hui. Donc il faut accompagner une sortie de l'élevage dans des bonnes conditions. Et après, il faut surtout penser filière. Aujourd'hui, l'élevage, c'est quasiment un tiers de l'emploi et de la valeur de l'industrie agroalimentaire française. C'est 40% des actifs immobilisés dans l'industrie. C'est fondamental. Donc on a besoin de réfléchir à cette trajectoire de montée en gamme et d'accompagner une transformation de l'appareil productif dans des bonnes conditions pour les territoires.
Bien. Et puis il y a des signes de l'époque aussi qui ne trompent pas. Par exemple, j'ai vu qu'aux États-Unis, les grands fonds de pension et autres envisagent de se détourner des entreprises d'élevage, comme ils ont banni dans le passé le charbon, par exemple, et son exploitation de leur portefeuille, avec des start-up véganes qui sont devenues les nouvelles coqueluches de Wall Street. Alors c'est évidemment pas ce qu'on souhaite pour nos assiettes demain, mais ça montre aussi un changement d'époque, Mathieu Balu.
C'est certain qu'on se détourne d'un modèle, disons, de viande un peu plus traditionnelle. Après, je voudrais pas non plus, enfin, en tout cas, c'est ma vision, mais je voudrais pas non plus qu'on se dise ça y est, on a passé le pic, maintenant on se dirige forcément vers une montée en gamme. Le tableau, il est quand même que c'est vrai, on a une certaine stagnation de la consommation. Oui. Et puis, c'est vraiment pas simple parce qu'il y a justement un enjeu de filière, c'est-à-dire que en 1980, il y avait 50 000 bouchers en France. Aujourd'hui, il y en a 20 000. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une filière qui s'est industrialisée, qui s'est mise quand même largement au service des distributeurs, de la grande distribution. Et tout ça ne va pas forcément encourager les choses dont on vient de parler.
Merci en tout cas à tous les trois pour ces réflexions et ces échanges mesurés. Voilà, c'est important aussi d'en parler sans hystérie. Merci infiniment.
Europe 1, Julien Bugier.